J'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Hey, monte le son.
Aujourd'hui, on parle de liens, d'échanges, de relations qui parfois peuvent être bousculés par le diagnostic d'une maladie ou par le handicap auquel on peut être soudain confronté. C'était il y a peu la semaine du cerveau et en Mayenne, cette semaine est portée par plusieurs associations qui organisent sur le département de la Mayenne plusieurs projections du film De toutes nos forces réalisé par Nils Tavernier. Ces associations réunies sont France Alzheimer 53, le comité 53 France Parkinson, Mayenne CEP et l'UNAFAM. On va parler justement de ces projections sous forme de ciné-débat avec mes deux invités d'aujourd'hui. Il s'agit de Paul Choinet de Alzheimer 53 France Alzheimer.
Bonjour. Oui.
Bonjour Paul Choinet, merci d'avoir accepté mon invitation. À vos côtés se trouve Nicolas Delamarre de Mayenne CEP, une association mayennaise de la sclérose en plaques. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Je ne suis pas seule pour animer cette émission ce vendredi. Lise est avec moi. Bonjour Lise, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien.
On te retrouve tout à l'heure pour l'agenda culturel. Comme chaque vendredi, il clôture la semaine pour vous annoncer toutes les dates et événements culturels à ne surtout pas manquer. Mais je vous le disais, aujourd'hui on parle de la semaine du cerveau. Je suis en bonne compagnie aujourd'hui. Je suis avec Paul Choinet de France Alzheimer 53 et Nicolas Delamarre de Mayenne CEP. Et donc pour la semaine du cerveau, vos deux associations sont accompagnées du comité 53 France Parkinson et de l'UNAFAM et vous organisez plusieurs cinédémas dans le département de la Mayenne. La projection du film De toutes nos forces, un film de Nils Tavernier. Deux projections ont déjà eu lieu le 25 mars au cinéma Le Vox à Mayenne et le 9 avril au cinéma Le Palace à Château-Gontier. Encore une rencontre est prévue le 15 avril au Cinéville de Laval à 20h. Pour commencer, j'ai envie de vous demander à tous les deux, la semaine du cerveau, qu'est-ce que c'est ?
La semaine du cerveau, en France, en fait, c'est un lieu, un temps pour pouvoir échanger sur d'où en est la recherche, en fait. Et c'est surtout une semaine qui mobilise les scientifiques et les chercheurs, à la fois dans la recherche fondamentale, hein, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, si je peux dire, et puis aussi sur de la recherche appliquée, c'est-à-dire d'où en sont les traitements des différentes maladies. Et donc, c'est un temps d'échange très important au niveau de la recherche. Et nous avons souhaité, en fait, plutôt au niveau de notre département, en fait, mettre en place du vécu des proches et des personnes qui sont porteuses de maladies du cerveau.
Donc, vous représentez chacun une association de maladies différentes. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce qu'est Alzheimer, la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément ?
Oui, donc la maladie d'Alzheimer est une maladie qui atteint le cerveau et qui provoque la mort des neurones. Et donc ça se caractérise par des difficultés pour la personne hein, au fil du temps. Cette maladie débuterait, selon la recherche, une quinzaine d'années dans notre cerveau avant qu'elle ne se voie. Qu'elle ne se manifeste par des premiers symptômes qui sont en général une plainte de la personne en se plaignant d'oublier. Et cette caractéristique va l'amener souvent à consulter son médecin et à engager des examens plus approfondis par rapport à un diagnostic ou pas hein, de cette maladie. En Mayenne, nous avons 3 consultations mémoire autour de cette maladie. Laval, le centre hospitalier de Laval, de Mayenne et de Château-Gontier et les neurologues qui sont aussi à la polyclinique de Laval et les psychiatres qui sont aussi des médecins spécialisés, consultants, autour de la clinique de Pritz, par exemple, ou en ville.
Nicolas, vous aujourd'hui, vous représentez l'association Mayenne CEP, donc une association qui accompagne les personnes confrontées à la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la sclérose en plaques ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors déjà, Mayenne CEP, c'est une association assez jeune qui a été créée en 2017. Alors la sclérose en plaques, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première cause de handicap non traumatique chez adultes jeunes, donc après les accidents de la route. C'est une maladie qui est auto-immune, puisque ce sont nos défenses immunitaires qui cible dans le système nerveux central la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est tout simplement une gaine qui permet la conduction et l'accélération des ordres entre les neurones, entre les axones. Et donc, cette gaine de myéline va se trouver dégradée par nos propres défenses immunitaires. La sclérose en plaques a plusieurs formes. Il y a une forme inflammatoire de la maladie et il y a également une forme neurodégénérative. Et c'est pour ça que la sclérose en plaques va toucher l'adulte jeune, mais que vous retrouvez tout au long de la vie cette maladie. Puisque pour la forme notamment progressive, c'est vers généralement 40 ans que cette maladie va toucher les personnes. Tout en sachant également que la sclérose en plaques touche 3 femmes pour un homme. Donc, étant donné qu'elle va toucher l'adulte jeune, elle va impacter toute la vie de la personne au moment où elle a un désir de grossesse, où elle est en couple, où elle finit les études et se lance sur le marché du travail. Un diagnostic de sclérose en plaques peut s'avérer dévastateur, quoi. Mmh.
Effectivement. Et on le disait, vous êtes accompagné pour cette semaine, la semaine du cerveau, de 2 autres associations. On parlait tout à l'heure du comité 53 Parkinson, qui est aussi une maladie neurodégénérative touchant plus de 220 000 personnes en France. C'est important de le savoir. Et vous êtes également accompagné de l'UNAFAM, qui accompagne davantage des personnes atteintes de troubles psychiques. C'est aussi important de visibiliser ces 2 autres associations qui vous accompagnent.
Tout à fait, oui, parce que d'abord pour la maladie de Parkinson, c'est un grand nombre de personnes qui ne cessent d'augmenter aussi et qui caractérise aussi un adulte souvent dans la 40-50 ans et qui va être encore en situation de travail et qui va à partir de là bousculer un peu à la fois la vie personnelle et la vie sociale. Et elle se caractérise souvent par une difficulté à la mobilité, la motricité qui se ralentit, qui se freine, et puis par différentes sensations au niveau corporel qui sont gênantes en fait au niveau de la vie quotidienne. Donc il y a aussi, on parle souvent de la maladie Parkinson avec les tremblements, mais ça n'est pas ça systématiquement. Hein. Toutes les malades peuvent avoir une maladie de Parkinson et un diagnostic de maladie de Parkinson sans non plus tremblement. Et donc c'est quelque chose qui est particulier parce que pour les personnes, ça engendre en fait des inconvénients individuels au niveau corporel. D'abord, on comprend bien le ralentissement des gestes, des pertes de l'équilibre, des difficultés parfois à se motiver aussi pour être dans la vie quotidienne avec les autres. Et puis des soucis permanents en fait en termes du fonctionnement corporel et des craintes, des risques de chute, des questions autour de la conduite, des automobiles, des questions aussi autour de la vie familiale, en fait.
Oui, effectivement, il y a les symptômes de la maladie, il y a tout ce qui va avec, il y a le lien avec l'entourage. Et justement, pour sensibiliser, pour visibiliser ces maladies, vous avez choisi pour cette semaine du cerveau le film De toutes nos forces, sous forme de ciné-débat, puisque à la suite de la projection, il y a un échange avec le public. Pourquoi avoir choisi ce film ?
On a choisi ce film d'abord parce qu'il touche le cerveau hein, du jeune enfant, adolescent, jeune adulte qui est malade, qui souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Et donc c'est un peu ça qui nous a tous ensemble conduit à choisir ce film. Mais surtout aussi, c'est parce qu'il présente en fait l'importance d'une maladie, d'un handicap dans une famille, les difficultés que ça peut représenter dans toute cette phase d'appréhension de la maladie, du vivre avec au quotidien, la répartition des rôles entre père et mère, les cheminements qui sont différents pour chacun, et puis aussi toute cette résilience autour du développement de ce jeune qui, lui, a envie de grandir et de se réaliser comme personne et qui va entraîner, en fait, vraiment une révolution familiale avec une grande participation fédérative autour des projets de la famille.
Oui, puisque finalement, ce que je retiens de ce film, c'est qu'il parle notamment de la relation entre le père et le fils. C'est une relation compliquée d'un enfant donc en situation de handicap, comme vous avez pu nous le dire. Et cette relation entre ces deux personnages est compliquée. Le père est un ancien sportif, il refuse le handicap de son adolescent et se réfugie dans le travail. Pour créer du lien, le jeune garçon demande à son père de concourir ensemble à un Ironman. Cette question du lien, de la relation, c'est aussi des difficultés que rencontrent les personnes lorsqu'elles sont diagnostiquées, par exemple, de la maladie d'Alzheimer ou même de la sclérose en plaques. Est-ce que ça vous fait écho ?
Oui, forcément, ça nous touche, puisque quand on reçoit nos patients respectifs, la question du déni peut être abordé, mais également la question de comment va faire mon conjoint, mon accompagnant par rapport à ma maladie, quel sera l'impact de ma maladie sur ma vie quotidienne. Donc toutes ces questions-là, nous on les aborde avec nos patients respectifs.
Et quel que soit en fait le diagnostic d'une maladie neuroévolutive, souvent à l'annonce du diagnostic, à la fois la personne atteinte mais aussi ses proches, c'est un peu tombé de l'armoire, hein. C'est-à-dire que ça représente une forme de, même s'il y avait quelques doutes parfois, même s'il y avait des suspicions, les mots sont quand même chargés et connotés très peu positivement, parce que ce sont des maladies, pour certaines d'entre elles, telles la maladie d'Alzheimer, qui n'ont pas de traitement. Ce sont des maladies qui ne guérissent pas, qui ont parfois des traitements de suppléance pour avoir une qualité de vie malgré tout au quotidien, mais qui ne guérissent pas. Et donc ces annonces-là mettent les familles dans de grandes difficultés. Et l'objectif des associations, c'est de les accueillir en essayant d'expliquer que ce n'est pas au 12 avril avec l'annonce d'un diagnostic où tout s'écroule, que la vie va continuer, qu'il y aura peut-être des aménagements ou des adaptations, mais qu'on a le temps devant nous pour continuer d'exister en tant que personne, à la fois du côté de la personne malade et pour ses proches.
Puisqu'on parlait effectivement tout à l'heure d'acceptation de la maladie, donc il s'agit effectivement du patient, mais aussi de l'entourage, et on a pu échanger un petit peu tous les trois avant le début de cette émission. Et effectivement, chaque histoire est différente. Chaque personne, avec son histoire, son vécu ou même son tempérament, réagit différemment au moment du diagnostic.
Oui, tout à fait. La vision de la maladie, la vision de l'existence est aussi directement impactée par nos conduites devant quelqu'un de malade. Si d'emblée, lorsque nous avons quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est une maladie, on va réagir soi-même en cherchant à tout prix un traitement. Et on a des ambitions vis-à-vis d'un traitement. Et toute notre parole va être dirigée vers la personne malade en disant « mais ne t'en fais pas, ça va guérir, on va traverser, etc. » Si notre approche, au contraire, est quelque chose de très grave et qu'on se rend compte que cette maladie va vraiment bousculer toute l'autonomie de la personne dans des délais plus ou moins longs, on va avoir tendance peut-être à tenter une surprotection, à tenter de protéger, à tenter de permettre à la personne de continuer une vie familiale, sociale, mais en étant un peu surprotecteur. Et puis on a aussi une autre fonction qui est simplement de dire ben, la maladie, voilà, c'est la destinée, c'est une évidence. Et avec ça, on va essayer de dire qu'est-ce qu'on fera ensemble, tous.
Et tout ce que vient de dire Paul, en fait, on le retrouve dans le film, puisque sans en dévoiler un peu trop, mais vous avez le papa qui est pas dans le déni, mais il est il se sent coupable, il est très gêné vis-à-vis du handicap, de l'infirmité de son fils. Et vous avez cette maman surprotectrice qui ne voit pas non plus évoluer son fils, grandir son fils, et qui le protège toujours autant. D'autant plus que nos pathologies... on est concerné par un handicap invisible. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu cette forme de ciné-débat pour justement également lutter contre les préjugés, les discriminations. Moi, je le vois dans le cas de la sclérose en plaques. Étant donné qu'on est sur un handicap qui est invisible et tout ça, les gens, voire même l'entourage, ne comprend pas toujours la fatigue de la personne, ses troubles, et ne serait-ce que dans des endroits comme par exemple au travail. Au travail, les discriminations notamment faites à l'égard des personnes atteintes, et je parle pour moi, enfin je parle pour la sclérose en plaques, mais c'est pourquoi elle a un poste aménagé et pas moi, quoi. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu avec France Alzheimer, France Parkinson, l'UNAFAM adopter ce format de ciné débat pour justement essayer à notre niveau de lever tous ces préjugés et toutes ces discriminations.
Justement, deux projections ont déjà eu lieu. On le disait tout à l'heure à Mayenne et à Château-Gontier. Quelles ont été peut-être les réactions du public? Ça doit être un moment d'échange fort après la vision du film.
Oui, le public est composé, si vous voulez, de à la fois de personnes malades, à la fois de familles. Et à la fois aussi de spectateurs, en fait, qui sont là en termes d'intérêt porté à la situation, porté aussi au film en lui-même, et puis aussi de professionnels qui sont aussi des intervenants, en fait, hein, auprès à la fois des personnes malades et de leurs proches. Et donc, c'est vrai que les premières... Alors, il y a d'abord des réactions autour de l'émotion, hein, de ce film et de ce qu'il génère comme aussi mécanisme de résilience et de rebondir, si je peux dire. Et puis, il y a aussi des réactions de témoignages, en fait, où la personne dit, mais moi, dans ma situation, voilà ce qui m'arrive, etc. Et ce qui permet, en fait, d'échanger sur ce que font les associations. Et puis, aussi de préciser qu'il y a les associations, mais il y a aussi tous les professionnels. Il y a les médecins qui ont fait le diagnostic et qui sont en charge des thérapeutiques. Il y a aussi tous les autres professionnels intervenants, c'est-à-dire et au niveau du confort de la vie quotidienne, c'est parfois les aides à domicile, hein, qui interviennent souvent les premières au niveau de la maison, au niveau du soutien. Et puis après, il y a parfois aussi des soignants, des nécessités de professionnels de soins, infirmières, ergothérapeutes. Aussi des personnes qui font aussi toutes les activités d'évaluation, toutes les activités d'accompagnement du cheminement, et puis d'autres professionnels aussi qui vont essayer de soutenir les familles en termes de répit, en termes d'accompagnement relationnel et émotionnel, comme les psychologues, comme les plateformes de services, comme les CCAS par exemple.
C'est aussi l'occasion d'avoir... aussi un peu d'espoir dans toute la projection qu'on peut avoir, puisqu'effectivement il y a des difficultés liées à la projection dans le futur, liées à ce sentiment de solitude aussi. J'aimerais qu'on y revienne tout à l'heure à l'annonce d'un diagnostic ou même tout au long du parcours. Mais il y a aussi ce lien qui est possible, qui est raconté dans l'histoire, et il y a des moments de difficulté, mais il faut chercher, il faut trouver, il ne faut pas baisser les bras, et les moments de joie existent encore après l'annonce du diagnostic.
Oui, alors forcément, les moments d'espoir, tout n'est pas forcément noir derrière un diagnostic d'une maladie comme les nôtres. Derrière, il y a le fait également de vouloir tourner la page très vite, de se mettre en contact avec les associations. Parce que en fait, le neurologue qui va poser le diagnostic va avoir une deuxième fonction, c'est de mettre en place une thérapeutique quand celle-ci est possible. Et après, si vous voulez, la personne en sortant du cabinet peut se retrouver avec tout un tas d'interrogations, tout un tas de projets. Elle se dit si tous mes projets restent en suspens, il faut contacter une association qui, après, c'est notre rôle de pouvoir l'orienter également et de lui donner des conseils sur tout ce qui est démarche administrative. Parce que ça, de toute façon, on n'y échappe pas. Démarche administrative, mais également conseil. Voilà, c'est pour ça que ces moments-là sont tout aussi importants, quoi.
Oui, parfois, le besoin de, après le diagnostic, l'annonce du diagnostic, ou les difficultés de la vie quotidienne aussi qui surviennent, c'est parfois le besoin de trouver un endroit pour déposer ça, en fait, pour venir rencontrer quelqu'un. Nous, les permanences sont faites aussi par souvent des aidants qui ont eux-mêmes été aidants de personnes malades. Et donc, il y a besoin de venir partager et déposer ce qui est vécu, parce que, comme vous le dites, hein, il y a des moments positifs et puis il y a d'autres moments qui sont plus compliqués. Et pour trouver un équilibre dans tout ça, il y a besoin aussi de un peu sortir ça de soi-même et puis mettre ça en mots et puis permettre de le partager. Et après, de pouvoir se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Comment on va continuer notre existence avec ça ? Et cette question-là, elle va venir après un temps, en fait, hein, comme le dit bien Nicolas aussi.
Justement, je vous propose qu'on continue sur cette question de la projection dans le futur et sur la situation des aidants dans quelques instants. Je vous propose avant ça une petite pause musicale. C'est un titre qui est sorti hier et vous savez qu'on l'aime beaucoup cet artiste dans cette émission. Il s'agit de Philippe Catherine et alors il semblerait qu'aujourd'hui il soit invité à un anniversaire.
Je rêve de te voir ce vendredi, portant une chemise à col ouvert. Tes longs cheveux sont un paradis, et que je veux voir sur un bord de mer. Je ne veux plus jamais te dire au revoir,
plus jamais.
Mon anniversaire c'est le bonjour,
c'est aujourd'hui.
Souffler mes bougies sous ton regard, à sentir tes doigts me pincer les joues. Je vois ta moustache frétiller quand tu vois tous ces fruits de mer. T'es mon plus bel invité, celui qui fait rire ma mère. Ne me ramène pas de cadeau, Philippe, car c'est toi mon cadeau. Le lapin qui sort du chapeau, mon magicien, c'est bien toi.
Philippe, viendras-tu à mon anniversaire?
Qu'on ne voit pas ailleurs, des chemins balisés que pour l'éternité. Je t'emmènerai à Florence en pleine renaissance, avec Léonard de Vinci, un verre de Quinty. Je le vois dans tes yeux que je suis magique, alors je le crois un peu que je suis magique. Je ne veux pas te décevoir, surtout pas ce soir. C'est ton anniversaire, tu es un cadeau pour cette terre.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Ton anniversaire, tu es un cadeau pour cette terre. Ne laisse personne te prouver le contraire.
Philippe, viendras-tu
oui.
À mon anniversaire?
Oui, je viendrai.
À mon anniversaire,
tu es un cadeau pour cette terre.
Philippe, pourras-tu ramener le dessert?
Personne te prouver le contraire. Tu es un cadeau pour cette terre.
Merci Philippe.
Ne laisse personne te prouver le contraire.
Je ne laisserai personne me prouver le contraire. Viendras-tu à mon anniversaire?
Je viendrai à ton anniversaire.
Et Et nous sommes de retour dans l'agité du local 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Vous écoutez l'autre radio. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Paul Chouanet de l'association France Alzheimer 53 et de Nicolas Delamarre de MayenneCEP, une association mayennaise de la sclérose en plaques. Vous nous rejoignez, on a échangé ensemble donc sur cette semaine du cerveau qui est organisée sur notre département avec la projection du film De toutes nos forces, un film de Nils Tavernier. Il reste aujourd'hui une dernière projection qui sera donc le lundi 15 avril à 20h au Cinéville de Laval. Et donc on a échangé un petit peu sur ce qu'était la maladie, sur l'acceptation de la maladie. Et maintenant j'ai envie de revenir avec vous, Paul et Nicolas, sur la place de l'aidant, cette place qui est aussi compliquée finalement. Et on parlait ensemble pendant cette pause musicale du sentiment de culpabilité qui arrive aussi pour l'aidant.
Oui, enfin, la culpabilité est un sentiment dont on est soi-même à l'origine, si vous voulez. Hein. C'est quand même ça, la particularité. Et la culpabilité, c'est souvent une colère contre soi-même par rapport à ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on aurait souhaité faire, et en fait, ce qu'on a fait, mais qu'on a fait, qu'on trouve qu'on en a trop fait ou pas assez fait, etc. Et à partir de là, ça va générer un sentiment qu'on appelle un sentiment de culpabilité. Mais on est tous totalement responsables là, de ce sentiment-là. Et donc, par contre, il est très gênant dans la vie quotidienne parce que il complique les relations. Il ouvre la place aux interprétations, il ouvre la place aux lectures à côté, il ouvre la place aux préjugés, il ouvre la place à tout un tas de choses. Et donc, c'est une vraie souffrance, en fait, parce que ça met mal à l'aise, voilà, dans la vie quotidienne. Et ça, c'est important de pouvoir en parler. Et donc, nos associations ont des offres autour de ça, avec, lorsque c'est vraiment très important et que ça représente une vraie souffrance pour la personne dans un quotidien qui est déjà compliqué, des soutiens d'ordre psychologique en proposant des rendez-vous chez des psychologues pris en charge par les associations sous différentes formes. Et puis ça représente aussi des groupes d'entraide et de soutien avec l'échange de paroles entre personnes concernées pour essayer aussi d'évoquer pour chacun en fait comment on a pu avancer, dépasser, vivre avec ça. Au niveau des personnes qui sont aidants au quotidien.
Nicolas, vous avez souligné, quand on parlait des relations, vous avez dit souvent tendu, c'est compliqué de refaire relation suite au diagnostic.
Bah, après, il y a souvent des sous-entendus qui se mettent en place. Une personne touchée par la pathologie, et à la limite, c'est valable pour toutes les pathologies, mais elle ne va pas forcément se conduire de la même façon. Et c'est ce qu'a très bien résumé Paul, c'est que va se mettre en place des sous-entendus, la gestion au sein du quotidien ne sera plus aussi, entre guillemets, limpide qu'avant, quoi. Et donc, derrière, va se mettre en place des questionnements et autres. Est-ce que l'aidant va se dire, est-ce que c'est moi qui a changé ou est-ce que j'en fais pas assez? L'aider va se dire peut-être qu'il encombre trop justement sur le quotidien de son compagnon, de sa compagne, donc voilà.
Je pense qu'on peut souligner à travers cet échange l'importance de bien comprendre la maladie, de bien la connaître et de mettre des mots sur ce qu'on ressent, puisqu'il y a des étapes, il y a différentes étapes entre le diagnostic et puis l'évolution de la maladie pour pouvoir se projeter, pour pouvoir faire du lien, continuer la relation et continuer à trouver ces moments de joie, d'échange et ces moments forts, puisque la relation est toujours possible et je crois que c'est là-dessus qu'on peut échanger. Hein.
Oui, parce que la difficulté parfois, c'est que si on va voir sur Internet, on va trouver des historiques de maladies avec parfois donc un souci, hein, on s'inquiète des devenirs lorsqu'on lit un historique de maladie. Ça peut être très inquiétant lorsqu'on va soi-même voir quelque chose comme ça dans des banques de données. Et puis c'est aussi le fait de penser la difficulté par avance, alors que bien souvent l'aidant et la vie quotidienne, elle est faite de ici et maintenant. Ici et maintenant, si j'ai une question, à qui je peux la poser? Donc je peux la poser à mon médecin, je peux aussi aller voir l'association. Si ici et maintenant j'ai du mal à m'endormir, j'ai du mal à ça me tracasse, j'ai du mal à envisager les prochaines vacances, nous les associations, on a des offres en termes de sophrologie, en termes de relaxation, on a des offres en termes d'activité physique, on a des offres en termes de soutien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc l'objectif, c'est plutôt de dire ici et maintenant de quoi j'ai besoin. Et ma réponse à mon besoin, ici et maintenant, dans ce quotidien. Et ne pas essayer de se transposer dans un devenir qui est totalement aléatoire, parce que malheureusement, il peut se passer d'autres choses. Malheureusement, la vie n'est faite que d'inattendus. Et donc, il faut essayer de se questionner sur le quotidien et de trouver le confort de vie dans la quotidienneté. Et c'est ça l'objectif de nos associations. Hein, on n'a pas trop peut-être cité, mais France Parkinson a aussi des offre au niveau des aidants et des personnes malades en termes d'activité, de soutien. Et l'UNAFAM, qui est une association de famille, a aussi, évidemment, on le comprend là, des offres très particulières aussi pour soutenir, hein, dans la maladie psychique, qui est une maladie compliquée parce que c'est une maladie de la relation à l'autre.
Merci, merci Paul d'avoir été avec nous et merci Nicolas.
Merci.
C'était très intéressant de pouvoir échanger avec vous et d'en apprendre un peu davantage aussi sur ce que ça représente concrètement d'être confronté à ces différentes maladies. On invite évidemment nos auditeurs à venir à votre rencontre donc le lundi 15 avril à 20h au Cinéville de Laval à la suite de la projection de Toutes nos forces, un film à découvrir et un film qui permet d'échanger ensuite et de faire du lien. C'est gratuit, effectivement. Entrée sur, voilà, l'entrée est gratuite sur tous les sites. Effectivement, c'est important de le préciser, Paul. Vous avez raison. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
Aujourd'hui. C'était
merci à l'autre radio.
Et donc, maintenant, je pense qu'il va être temps de passer à l'agenda culturel, Lise.
Oui, on commence avec Una Bestia, un récital minimaliste et élégant du pianiste Romain Dubois, à retrouver demain soir au Théâtre de Laval. Le pianiste y déjoue les codes de la musique électronique et contemporaine. Je vous laisse écouter Pierre Jamet, directeur du théâtre, qui nous en parle plus en détail.
Una Bestia de Romain Dubois, ça c'est une performance d'un pianiste qui avait été présenté au Chaînon Manquant il y a quelques années. Et pour l'anecdote, en fait, il y avait très peu de programmateurs parce que les pros étaient essentiellement au théâtre pour un grand spectacle. Je crois qu'il y avait 6 programmateurs, je crois que les 6 l'ont programmé. C'est un très grand succès et notamment ça a été mis en scène et accompagné par Olivier de Sagazan, qui est le papa de la fameuse Zao de Sagazan et le papa aussi de Leïla Carr. C'est une sacrée famille d'artistes, les deux Sagazan. Et lui, Olivier de Sagazan, c'est un performeur assez incroyable. Et il a fait travailler en fait Romain Dubois sur l'animalité. Et il faut vraiment que les gens aillent voir les images sur Internet de cette performance Una Bestia. C'est très beau, très puissant, très animal. Et c'est assez impressionnant. Voilà. Et donc, c'est à découvrir sur le plateau du Théâtre de Laval le samedi 13 avril à 20h30. Il y a des tout petits tarifs. Il faut vraiment en profiter. Voilà, c'est magnifique.
Et amis auditeuristes qui souhaitaient décompresser dès ce soir, le 6x4 à Laval accueille Féfé pour une ambiance musicale oscillant entre soul et rap. Vous pourrez notamment y écouter son dernier album, Hélicoptère, sorti en début d'année 2024. Hélicoptère, c'est une nouvelle version de Féfé dans laquelle il se recentre sur sa carrière en solo. IPN de Go et son mélange de soul et R&B seront également au rendez-vous. Cet immanquable paysage musical est à découvrir ce soir au 6x4 à partir de 20h30. Et en parlant de manque, vous avez déjà eu la Fear of Missing Out, ou FOMO pour faire court, parce que ça signifie la peur de manquer quelque chose. Et la vaste entreprise présentera son spectacle intitulé « À ne pas rater demain au carré à Château-Gontier ». Voilà une belle occasion de tester votre FOMO. Maëlle Grenier nous présente l'événement. Écoutez.
Un rendez-vous à 18h30, rendez-vous Théâtre Psychanalyse avec l'association de la cause freudienne qui nous accompagne sur ces thématiques et qui aborde évidemment ce samedi 13 avril, la question du temps. Donc ça se passe à 18h30 en préambule du spectacle de clôture de ce temps fort qui s'appelle « À ne pas rater » qui aura lieu au Théâtre des Ursulines à 20h30. « À ne pas rater » de la compagnie La Vaste Entreprise traite de façon complètement décalée de ce qui fait que quand on fait le choix de venir voir tel spectacle ou de participer à tel événement, bah forcément on va rater tout ce qui se passe de formidable au même moment. Et donc comment on vit intimement ces contradictions et ces conflits internes et comment on se débat avec ça en soi-même, c'est très très drôle, très intelligent. Et évidemment, ça aborde toute cette thématique d'accélération et de frustration auxquelles on est tous confrontés. C'est surtout très drôle, très intelligent. C'est une jolie fête sur le questionnement du temps pour terminer ce temps fort. Et on terminera en musique avec Gigi Chamallow et les platines vintage, vinyle, qui nous accompagneront pour cette fin de soirée.
L'agité du local s'arrête ici. Merci Paul Chouanet et à Nicolas Delamarre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi Alice de m'avoir accompagnée sur cette émission. Mais alors qu'est-ce qui se passe sur l'autre radio aujourd'hui? La soirée du vendredi commence toujours avec une pointe de nostalgie, Lise.
Oui, avec Dancehall Social Club, on se laisse bercer ou porter par ces chansons qu'on a parfois oubliées, mais que l'on peut quand même considérer comme nos petites sucreries musicales d'il y a quelques années, et ça commence à 19h.
Ensuite, à 20h, c'est Tempus Fugit.
Le duo Fred et Plom prennent l'antenne, ils ont des styles musicaux bien différents, mais se retrouvent toujours sur ce terrain d'entente qu'est le plaisir de partager du son. Fred vous fera plutôt découvrir de la pop-rock brute de décoffrage ou rock alternatif, alors que Plom vous embarquera avec des groupes prog ou psyché.
Lise, je te propose qu'on regarde ensemble ce qui nous attend sur nos ondes ce week-end. Par exemple, samedi à 11h, on écoute Lettre de Gaza et dès 13h, on commence la partie musicale du week-end.
Avec Rock Dreams, animé par Yann et Bruno, samedi, ils font ensemble un focus sur Alvin Lee, un groupe de rock qui vient d'Angleterre et qui a fait ses débuts dans les années 70.
À 18h, c'est Rock à la Casbah. 19h, ce sera Vedette, Radio Vedette sur nos ondes. Dimanche, on termine le week-end qu'on espère ensoleillé avec l'émission Du Poil sous les bras.
Et l'émission nous parle résistance en parlant écologie, puisque ce n'est pas être écolo qui est liberticide. C'est lorsque l'état d'urgence sera imposé face au changement climatique que nous risquons de perdre toute liberté. Du Poil sous les bras reçoit cette semaine comme invité Camille Étienne, qui est militante et autrice du livre « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ».
Nous, on se retrouve donc lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, donnez-en un peu à ceux que vous aimez et comme chaque jour, s'il vous plaît, faites-le bien.
Tu peux couper la radio, Mimi, c'est fini.
Ah non, t'as pas bien écouté. Les autres émissions qui arrivent, elles ont l'air super.